Bien, donc aujourd'hui, on commence à étudier le prince avec une vision un peu générale du texte et des problèmes qu'il pose, etc. Alors, quand on aborde le texte, donc on a ce texte dont on sait que Machiavel nous annonce en décembre 1513 qu'il vient de l'écrire. Hein, il vient de l'écrire. Et vous savez qu'il en fait un résumé donc qui est assez net hein, dans la lettre qu'il envoie à Francesco Vettore. Et dans cette lettre, il résume de la façon suivante. Cet opuscule qui dit-il, que dit-il, il vient de composer. Alors, vous savez, dans ce passage où il rappelle que tous les jours, il s'installe dans nel suo scrittorio, et là, avec cette métaphore du changement d'habit, hein, il revêt à ce moment-là panni reali et curiali, hein, des habits dignes des cours royales et de la cour d'un pape, hein, reali et curiali. Et là, il rentre en conversation avec gli antiqui uomini. Hein, voilà. Non mi vergogno a parlare con loro, domandargli della ragione delle loro azioni, e quelli, hein, ces grands hommes de l'Antichité, per loro umanità mi rispondono, e non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. C'est une de ces belles lettres du plaisir intellectuel. Hein. Notez bien qu'il travaille, je vous l'ai déjà dit, mais il travaille 4 heures par jour, pas terrible, quoi, hein, pas terrible. Voilà. Et donc, et perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere lo aver inteso, io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale e composto uno opuscolo de Principatibus, dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo soggetto, disputando, e c'è là qui donne en gros les indications sur ce qu'il y a dans ce petit livre, disputando che cosa è principato, di quale spezie sono, come essi acquistano e si mantengono, perché essi perdono. Alors, ça indique quand même assez globalement que le texte qu'on a, le texte qui nous est parvenu par la tradition éditoriale et la tradition manuscrite, hein, répond à cette espèce de définition première hein, dans cette lettre à Vettori où Machiavel explicite très clairement qu'une des fonctions du texte, fonction de l'écriture de ce texte, c'est de convaincre les Médicis de lui redonner une place semblable à celle qu'il avait, c'est-à-dire au service de Florence, au service du Stato fiorentino. Donc là, c'est un point sur lequel un des grands exégètes machiavélien encore vivant, qui est Mario Martel, il insiste beaucoup, mais je crois qu'il a raison. Hein, je vous l'ai dit plaisamment parfois en disant, c'est son CV. Hein, c'est son CV qu'il fait passer. Il se demande s'il ne doit pas, à ce moment-là, faire passer son CV au Médicis de façon à expliciter qu'il est prêt à se mettre à leur service, en entendant bien que se mettre à leur service, c'est apprendre dans le sens où lui-même, dans les discours, et en particulier dans les 18 premiers chapitres, et en particulier dans le chapitre 18 du premier livre, explicite qu'à des moments donnés, Eh bien, ce qui compte, c'est de sauver la libertà de la patrie florentine. Et que, donc là, incontestablement, il se place dans cette logique en écrivant le texte. Et là, les remarques qu'il fait, avait dans cette lettre à Vettori, sont incontestables. C'est-à-dire qu'il dit très clairement, voilà, je pense que s'ils le lisent, eh bien, les Médicis verront que ils peuvent se servir de moi, dovrebbe ciascheduno aver caro servirsi d'uno che alle spese d'altri fussi pieno di esperienza. Donc, ce qu'il fait valoir dans ce texte, c'est le fait que son expérience, rappelez que dans ce qui sera ensuite la lettre de dédicace, cette question de la longa experiencia est au cœur, un des piliers sur lesquels il appuie l'écriture du texte. Donc, il se demande, en tout cas, il se demande, et il demande à Vettori s'il lui semble que ce petit texte peut être l'occasion pour lui de renouer avec les Médicis et de les convaincre de les prendre à son service. Desiderei adunque che voi ancora mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia e a voi mi raccomando. Et la demande n'est pas seulement sur le contenu du texte, mais sans doute beaucoup plus sur l'usage à faire de ce texte. Alors, vous vous rappelez qu'on est à la fin 1513, que 1513, ça a été donc pour Machiavel le moment où il a été impliqué dans une conjuration contre Giuliano de' Medici, justement, celui auquel il veut adresser ce texte, qu'il a été emprisonné, torturé, etc. Et qu'il est sorti, dit-il, grâce à la Letizia, l'allégresse générale qui a accompagné l'élection du cardinal Giovanni de' Medici à la papauté. Et vous savez que voilà, c'est un moment important, évidemment, pour Florence. La maison des Médicis a maintenant un pape et l'allégresse générale fait que toute une série des gens qui ont été à ce moment-là mis en prison parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir fait partie de la conjuration sont libérés. Et il est libéré. Mais notez bien que dès ce moment-là, des Médicéens actifs comme Francesco Vettori et plus encore son frère Paolo Vettori étaient persuadés que Machiavel n'était pour rien dans cette conjuration et avait commencé à mettre en place un système pour convaincre les Médicis que l'accusation contre Machiavel n'était pas fondée. Parce que on a un petit texte de Machiavel intéressant d'un peu avant cette période, mais après la chute de Piero Soderini, où il écrit un texte pour les Médicéens. C'est-à-dire que Machiavel, comme il le dit dans le chapitre 15, va dietro la verità effettuale della cosa, et qui sait que là, des choses importantes se sont passées, sur lesquelles il est inutile d'épiloguer longtemps. Si on veut sauver Florence, il faut, à la tête de Florence, des gens capables de prendre les décisions qui s'imposent pour préserver la liberté de la cité. Ce petit texte Qu'on appelle généralement Letterae Palleschi, hein, les Palleschi étant les partisans des Médicis, du fait du blason des Médicis, où il y a comme ça les Palle. Hein, et le cri de ralliement des partisans des Médicis, c'était ça, Palle, Palle. Hein, ouais. Donc Letterae Palleschi, hein, qui commence par ces mots, Notate bene questo scritto. Et dans lequel il explique que la question. Un texte qui dit très précisément que attention, il dit aux Médicéens, attention, votre ennemi, maintenant que vous êtes revenu en 1512, ça n'est pas Piero Soderini et les gens qui étaient avec Piero Soderini, c'est le même ennemi qu'avait eu Piero Soderini, à savoir les oligarques, les grandes familles. Les grandes familles florentines, c'est eux le danger. Et quand ces gens-là, ils citent jamais de nom, hein, certi cittadini, vous conseillent, à vous les Médicis, de dire du mal de Piero Soderini, etc., ce qu'ils ont en tête, hein, c'est de vous mettre en opposition avec l'universale de la cité. Donc là, je vous dis, c'est un point sur lequel, en particulier, Mario Martelli insiste parfois un peu trop, hein, un peu trop. Mais je crois que ce premier point est à intégrer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Machiavel estime qu'il faut jouer avec les cartes qu'on a en main et que sauver Florence, là, c'est appuyer une politique médicéenne de façon à ce que cesse, hein, cette spirale de l'incapacité à agir, hein, cette spirale qui est alimentée par cette idée qu'il faut jouir du bénéfice du temps, comme il l'écrit dans le chapitre 3, « Godere il beneficio del tempo ». Il faut agir. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un point à avoir en tête. Bien. Alors, donc on a ce texte, hein. Ce qui est tout à fait certain, c'est que il ne va pas le donner à Giuliano de' Medici, puisque le texte qu'on a et qui est publié donc, après sa mort, hein, 5 ans après sa mort, en 1532, est précédé par une lettre de dédicace, non pas à Giuliano de Medici, donc ça veut dire qu'il ne l'écrit pas entre 1513 et 1515, il l'écrit un peu plus tard, et il le dédicace au jeune Lorenzo Giovane, hein, petit-fils de Lorenzo Vecchio, comme on dit à l'époque, qui est Laurent le Magnifique. Alors, ce point-là est certain également, hein, puisque donc la lettre de dédicace n'est pas écrite en même temps que le reste, et il reste une question sur la constitution du texte, une question importante, qui est la rédaction du chapitre 26. La rédaction du chapitre 26. Là-dessus, bon, ce qui est sûr, c'est que là, vous avez dû le remarquer à la lecture, la tonalité, hein, le style d'écriture, les références sont très différentes dans le chapitre 26, hein, cette exhortatio finale, hein, même si elles sont complètement liées à l'ensemble du texte et aux problématiques du texte, la tonalité est différente. Alors, là-dessus, on peut estimer que la thèse de Mario Martelli qui dit il l'a écrite plus tardivement que le reste du texte en pensant déjà non pas à Giuliano mais déjà à Lorenzo, et donc ça nous repousse, hein, à partir de 1516, entre 1516 et 1518. Hein, alors d'autres estiment que non, des raisons étant que ça paraissait peu probable qu'il y ait cette, cette exhortation à chasser les étrangers après la victoire en 1515 des Français et du roi François Ier à Marignan. Voilà. En tout cas, resterait après à envisager, mais là on l'envisagera plutôt en prenant chapitre par chapitre, les possibilités d'intégration de petits bouts de texte à l'intérieur de chapitres. Il y a en particulier un point sur lequel on peut se poser la question, qui est la fin du chapitre 19, celui sur « Il faut éviter la haine et le mépris ». La fin du chapitre 19, vous savez, est consacrée aux empereurs, à l'histoire, et aux leçons qu'on peut tirer de l'histoire des empereurs, des empereurs romains. Et là, on peut effectivement penser que ce passage-là est lié à un moment important dans l'histoire de l'édition florentine, c'est que le texte d'où il tire, d'où Machiavel tire ses informations sur ses empereurs, est traduit depuis longtemps, mais va être publié à Florence en 1517. Alors, rien n'empêche qu'il l'ait lu avant, parce que la traduction, elle est du Politien, elle est bien antérieure, et donc il a très bien pu le lire avant. Ou en discuter avant que ça soit publié à Florence en 1517. Mais enfin, pas non plus impossible que ça soit à l'occasion de cette traduction donc de l'histoire d'Hérodien en 1517 qu'il ait ajouté la dernière partie du chapitre 19. Hein. Qui à ce moment-là expliquerait aussi le fait que ce chapitre-là est le plus long, de l'ouvrage, hein, parce que c'est quand même des chapitres assez brefs. Bon, je pense à un ajout ultérieur. Hein. Mais enfin, la chose dont on est à peu près certain, et maintenant, même Mario Bertelli a abandonné l'hypothèse d'une écriture vraiment en deux temps, c'est que l'essentiel du texte est. L'essentiel du texte que nous lisons est celui dont parle Machiavel dans la lettre à Francesco Vettore de 1513. Voilà. Sur ce point, il y a maintenant un accord presque général. Alors, quand on prend le texte et qu'on essaye de voir sa structure, hein, on voit une espèce d'avancée par bloc de la pensée de Machiavel. Hein. Donc on peut, je crois, faire une analyse en quelques blocs de la structure du texte. Donc, le chapitre 1 annonce une partie des principes que Machiavel suit, donne une espèce de schéma, et ce schéma... annonce une partie de tous les problèmes. Hein, si on prend le schéma tel qu'il est exprimé dans le chapitre 1, on a cette mise en place de cette méthode, c'est soit ça, qu'on a appelé la méthode dilemmatique, hein, out, out, hein, de Machiavel, et pour chacun des soit héréditaires, soit nouveaux, hein, on va avoir donc sur soi héréditaire, c'est le chapitre 2. Soi nouveau, alors là, on va avoir la série des chapitres qui vont hein, qui vont jusqu'au chapitre 7, hein, et les subdivisions en sont annoncées dans, toujours dans le chapitre 1, « E nuovi, o e sono nuovi tutti, come fu Milano Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista come il regno di Napoli al re di Spagna, donc, ces membres adjoints, hein, ça va être développé dans le chapitre 3. Sono questi domini così acquistati o consueti a vivere sotto uno principe o usi a essere liberi? Consueti a vivere sotto uno principe, ça va être le chapitre 4, dans lequel va s'introduire une nouvelle division en deux, hein, avec les deux modèles, France et Royaume du Turc. Dans un cas, ce prince est entouré de seigneurs, eux aussi, qui sont là depuis très longtemps, il y a des barons, etc., c'est le Royaume de France. Dans un autre cas, ce prince sous lequel... hein, qui dirigeait le dominio acquistato, sont comme dans la seigneurie du Turc, et à ce moment-là, il n'y a pas de baron, il n'y a pas d'autres seigneurs, tous les autres sont servi. Hein, nouvelle division, donc là on a chapitre 4, chapitre 5. E acquistonsi o con l'arme d'altri, o con le proprie, o per fortuna, o per virtù, et là, donc qui va regrouper ces deux divisions, armes proprie et virtù, c'est le développement du chapitre 6, armes d'altri et fortune, c'est le développement du chapitre 7. Alors, le schéma annoncé, il est réalisé, le schéma annoncé dans le chapitre 1, il est réalisé à la fin du chapitre 7. Réalisé à la fin du chapitre 7. Et à ce moment-là, rentrent en jeu des éléments qui tendent à dire il y a des cas où c'est ni per fortuna, ni per virtù, mais ça peut être sans vraiment l'un et sans vraiment l'autre. Et là, il est amené à introduire une idée nouvelle qui est exprimée au tout début du chapitre 8. Ma perché di privato si diventa principe ancora in due modi, il che non si può al tutto o alla fortuna o alla virtù attribuire, non mi pare da lasciarli indietro. Ancora che dell'una si possa più diffusamente ragionare dove si trattassi delle repubbliche. Questi sono quando o per qualche via scellerata e nefaria si ascende dal principato, o quando uno privato cittadino con il favore degli altri suoi cittadini diventa principe della sua patria. E le chapitre 8 va être consacré à ceux qui, par des crimes ou des scélératesses, parviennent au principat. Et le chapitre 9 va être consacré au principat civil, des principato civili. Et le chapitre 9, évidemment, s'appuie sur l'expérience de Florence, même si ça pourrait être inversé comme lien. Justement, un des éléments qui montre ça, c'est que il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'exemple historique. Hein. Alors que dans la plupart des autres chapitres, il y a un ou deux personnages qui sont pris comme modèle ou qui sont pris comme exemple, hein, de la thèse qu'il défend, ou des comme exemple opposé des thèses qu'il défend. Dans le chapitre 9, il n'y a pas de nom, hein, évidemment, on peut penser que là, il part de l'expérience, celle qu'il a connue de Piero Soderini et celle des Médicis eux-mêmes. Ouais. Alors, de cette mise en place, à des moments donnés, il y a des ajouts hein, qui jouent le rôle un peu de déclencheur de la pensée. Dans le chapitre 10, hein, dans le chapitre 10, il vient mettre en place un point important qui est la force minimale que doit avoir un principe à nouveau. Hein, la force minimale que doit avoir un principe à nouveau. Alors, ce chapitre, faudra sans doute le reprendre parce que si ce chapitre-là est relié, et c'est pas du tout impossible qu'il soit relié au chapitre 9, ça voudra dire qu'il donne un énoncé des forces minimales que doit avoir lo stato di Firenze dans ce chapitre. En tout cas, ce chapitre 10 annonce des développements ultérieurs sur la question des armes, qui va être le bloc qui va suivre ce bloc de mise en place des espèces de typologie des principats nouveaux qu'on voit dans les 11 premiers chapitres. Là-dessus, s'ajoute une forme de principat qui n'a pas été non plus directement prévu dans l'énoncé du chapitre 1, mais il rattache le début du chapitre 11 au grand concept qu'il a utilisé dans le chapitre 1. C'est le chapitre qui traite des principats ecclésiastiques. Et là, il explicite que dans l'acquisition, hein, puisque les deux éléments à prendre en compte sont l'acquisition et le maintien, dans l'acquisition, ça peut être soit o per virtù, o per fortuna, soit l'un, soit l'autre. Donc là, la distinction est rappelée, mais il n'y a pas de règle. Hein, c'est par l'un ou par l'autre, mais ils se maintiennent sans que ni l'un ni l'autre de ces éléments ne soit nécessaire. Hein, s'acquistano o per virtù o per fortuna, e senza l'una e l'altra si mantengono perché sono sustentati dagli ordini antiquati nella religione, quali sono stati tanto potenti e di qualità che tengono e loro principe in stato in qualunque modo si procedino e vivino. Costoro soli hanno stati e non li difendono, hanno sudditi e non li governano, e gli stati per essere indifesi non sono loro tolti, e i sudditi per non essere governati non se ne curano, né pensano, né possono alienarsi da loro. Alors, vous savez qu'il a traité en fait dans ce chapitre de la politique de la papauté de Alexandre VI et de Jules II, et que le chapitre se termine par le souhait que Papa Léone, donc le pape Médicis, qui a trouvé un pontificat très puissant, Et ça se termine par le souhait que il quale si spera, se quelli, donc Alexandre et Jules II, lo fecero grande con le armi, questo con la bontà infinita e altre sue virtù, lo farà grandissimo e venerando. Alors, ensuite, hein, et donc là, en liant la thématique à cette première partie, hein, on peut considérer que ça, c'est le premier bloc, hein, dans lequel il résume, j'ai examiné particulièrement, hein, dans la précision, dans le détail, toutes les qualités di quali principati, dei quali nel principio proposi di ragionare. Mi resta ora discorrere generalmente le offese e difese che in ciascuno dei prenominati possono accadere. E donc là commence un nouveau bloc important, hein? Qui sont les fondements, hein, et vous savez que le terme est fondamenti, les fondements et les fondations, hein, de ces stati, les fondements sont les bonnes lois, les bonnes armes, et ce qu'il va traiter, et on voit bien qu'il s'agit là de l'application de l'idée que s'il va traiter une seule partie, un seul des deux fondements principaux de tous les États, qui sont les bonnes lois et les bonnes armes, s'il ne va traiter que les bonnes armes, c'est que la situation le requiert, le temps le requiert, la qualité des temps le requiert. Io lascerò indietro e ragionare delle leggi e parlerò delle armi. Et c'est effectivement ce que fait Machiavel dans 12, 13 et 14. Alors, l'essentiel du travail des chapitres 12 et 13, c'est de montrer la faiblesse qui découle de l'usage des armes mercenaires et de ce qu'il appelle les armes auxiliaires ou mixtes. Hein. Et donc, c'est là essentiellement par la critique des formes utilisées en Italie et qui consiste à utiliser des armes mercenaires, hein, c'est ça qui explique la faiblesse de l'Italie, c'est ça qui explique que l'Italie ait été corsa da Carlo, predata da Luigi, sforzata da Ferrando e vituperata da Svizzeri. Et ça, dit-il, c'est « le fine de la virtù » de ceux qui, justement, étaient les condottières des armées mercenaires. Voilà, donc, vous voyez qu'il reprend à la toute fin du chapitre, donc ça, c'est 12-31, hein, « il fine de la loro virtù è stato che Italia » è stata corsa da Carlo, predata da Luigi, sforzata da Ferrando, vituperata da Svizzeri. E dans le paragraphe 34, tutte queste cose erano permesse nelle loro ordini militari e trovate da loro per fuggire, come detto, la fatica e i pericoli, tanto che li hanno condotta l'Italia schiava e vituperata. No? Alors, vous voyez bien que là, cette idée de l'Italie esclave et outragée, hein, ça sera le point d'appui sur lequel il fondera l'exhortation finale. Hein? L'importance aussi du chapitre 12, c'est bien de mettre en place l'hypothèse que il y a eu un péché commis par les princes italiens. La ruine de l'Italie, la seule cause de la ruine de l'Italie, non è causata da altro che per essersi per spazio di molti anni riposata tutta sulle armi mercenarie, le quali fecero già per alcuno qualche progresso e parevano gagliarde infra loro, ma come venne il forestiero, le mostrorono quello che le erano, onde che a Carlo, re di Francia, fu lecito pigliare la Italia col gesso. E chi diceva come ne erano cagione peccati nostri, diceva il vero. Ma non erano già quelli che credeva, ma questi che io ho narrati. E perché gli erano peccati di principi, ne hanno patito le pene ancora loro. Andiamo avec une allusion très très précise au sermon de Savonarole, qui diceva come n'erano cagione peccati nostri, c'est précisément frère Jérôme de Ferrare, hein, c'est lui. Et il avait bien raison, mais il n'avait pas compris ce qu'étaient ces péchés. Ces péchés, hein, c'est bien clair. On assiste à un phénomène d'écriture important dans chez Machiavel, qui est qu'il reprend une terminologie religieuse pour la détacher de la religion, hein, et pour l'inscrire dans des questions de la politique et de la guerre. Peccati dei principi italiani, ça a consisté à se reposer sur les armées mercenaires, sur les armées mercenarias. Voilà. Alors, vous notez bien que cette idée des péchés des princes, elle va revenir sous la forme d'un péché que Machiavel va indiquer dans le chapitre 24, et qui est le péché qu'ont commis les princes d'Italie qui ont perdu leurs états. Les princes d'Italie qui ont perdu leurs états, ils accusent la fortune, nous dit-il dans le chapitre 24, mais ils ont bien tort d'accuser la fortune. Ils devraient accuser, en fait, le péché qu'ils ont commis. Donc, ils n'utilisent pas le terme péché, mais ils utilisent un terme qui a un sens important dans les deux traditions. Hein, qui sont la tradition romaine et dans la tradition religieuse, non accusino la fortuna, ma la ignavia loro. Et la ignavia, c'est le péché capital de la paresse, de l'incapacité à réagir dans la tradition religieuse. Et dans la tradition latine, c'est la lâcheté. Hein. Donc vous voyez, et peccati dei principi, c'était cette question des armes, le péché des princes qui ont perdu leur état après 1494, c'est l'ignavia. Qu'est-ce que propose l'exhortatio finale? L'exhortatio finale propose, d'une part, hein, vous souvenez que l'Italie, à la fin du chapitre 12, est présentée comme esclave, schiava et vituperata, que propose l'exhortatio? Elle propose de in libertatem a barbaris, hein, vindicandem, que l'Italie soit, alors vindicare, c'est le fait de la libérer de sa servitude. La vindicta, c'était une sorte de bâtonnet, de verre, j'avais dit qu'on touchait l'esclave, et ce geste-là signifiait qu'il était affranchi. Donc c'est donc la libérer de son esclavage. Voilà. Et qui va faire ça? À mon avis, c'est pas du tout un hasard que le terme soit un terme religieux, parce qu'il y a vraiment cette ligne entre 12 peccati dei principi, 24 l'ignavia des princes qui ont perdu leurs états, et le rédempteur, celui qui rachète, hein, qui rachète les péchés. Voilà. Hein. Donc là, vous savez, se met en place avec le chapitre 12, hein, ce grand moment, hein, ce grand moment important de réflexion sur les armes, qui est, alors, au-delà du premier élément qu'on a mis en lumière tout à l'heure, à savoir montrer qu'il est un homme d'expérience et qu'on peut l'employer, le deuxième point qui est plus fondamental d'un point de vue théorique, c'est le sens militaire de l'écriture, de l'enjeu de l'écriture du prince. Hein, paraît vraiment un des points décisifs du texte. Le troisième point, c'est donc cette question autour du chapitre 9, du chapitre 10, et du sens qu'il faut attribuer à Florence, à ce texte. Là, c'est un point complexe sur lequel il n'y a pas accord des spécialistes les plus renommés, et sur lesquels je vous ferai à un moment donné le point, hein, sur les deux types d'analyse. Mais les deux points que je viens de souligner là sont là indubitables dans le texte et aussi dans c'est en gros le point de vue accepté communément par les gens qui travaille sur Machiavel et le prince. Hein. Troisième point est plus discutable, la question de est-ce que, comme ça sera dit par un contemporain au moment de dans les années 30, est-ce que ce texte était un texte qui était écrit pour inciter les Médicis à prendre le principato assoluto de Florence? C'est un point sur lequel certains le pensent, Mario Martelli le pense, d'autres le pensent beaucoup moins, ou même sont pas d'accord du tout. Bon, c'est le cas d'un autre commentateur important, en particulier sur ce point-là, qui est Paul Larivaille. Moi, je ne le pense pas non plus beaucoup, mais les arguments de Martel, ils sont des arguments importants, et donc on fera le point sur l'argumentation des uns et des autres. Hein. Mais pour le reste, en tout cas, on est à peu près certains et à peu près en accord sur les analyses des enjeux. Alors, donc, 12, 13, 14 blocs sur les armes, les péchés des princes et la nécessité de se poser la question des armes comme fondement des principes à nouveau, avec l'écho que cette déclaration des chapitres 12, 13, 14 va avoir dans la reprise finale, l'exhortation finale à ce que se lève un rédempteur de l'Italie. Voilà. Et ensuite vient la partie sur ce qu'on pourrait appeler le machiavélique, hein, le Machiavel machiavélique, ou le Machiavel qui écrit une sorte d'anti-miroir des princes, hein, qui se lève contre la tradition de ce que doivent être les vertus des princes, hein, et qui là définit une méthode d'approche qui s'énonce assez rapidement dans le chapitre 15, hein, qui est la méthode «Sendo l'intenzione mia stata scrivere cose che sia utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andar dritto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa». Une remise en question donc d'un discours de type prescriptif, normatif, d'un discours qui décrive à la fois les qualités que doivent avoir les princes et les fonctionnements qui seraient les bons fonctionnements des républiques et des principats. Hein, ouais. Alors, tout ce bloc là qu'on peut considérer comme étant le bloc de 15 à 21, hein, le bloc de 15 à 21, mais qu'on pourrait même, après, on pourrait faire dedans un certain nombre de précisions, parce que le bloc, entre 19, 20 et 21, il y a vraiment une thématique, hein, même si c'est lié aux questions de l'ensemble, hein, de 15 à 21, c'est la même question qui est quelles doivent être les façons et les gouvernements d'un prince envers ses sujets ou ses amis. Hein, resta ora vedere, énonce-t-il dans le 1, paragraphe 1 du chapitre 15, resta ora vedere quali debbino essere e modi e governi di uno principe o con sudditi o con gli amici. Oh, et là, on va avoir donc l'espèce d'introduction qui est le chapitre 15, hein, qui met en place ces qualités, hein, les qualités qui procurent blâme ou louange, et puis ensuite il va traiter un certain nombre précisément de ces qualités, avec cette façon de faire, hein, qui a été souvent, sinon reprochée, en tout cas mise en évidence, en particulier par Francesco Guicciardini lui-même, hein, qui a un peu tendance à prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'on dit généralement. Bon, ouais. Il y a une vraie tendance à ça chez Machiavel, incontestablement, qui consiste à « Ah, on dit que, mais en fait c'est le contraire ». Donc là, il va le faire sur la libéralité et la parcimonie, chapitre 16. Il va le faire sur la cruauté et la piété, et la pitié, hein, de crudelitate et ad pietate, dans le chapitre 17. Il va le faire sur est-ce qu'il faut ou pas garder sa foi, c'est-à-dire la question de la fides, de la parole donnée, des engagements, etc. Est-ce qu'il faut faire ça quand on est un prince? Et puis, c'est en ça que les 19, 20, 21 ont à voir ensemble, hein, trois chapitres, dont ce gros chapitre 19, là, hein, où il y a cette histoire des empereurs romains, 19, 20, 21, autour de la nécessité d'éviter la haine et le mépris des peuples. Hein, la 19, mais repris, hein, qui s'appelle comme ça, « De contem tut et odio fugendo », hein, mais le 20, qui est donc sur est-ce que bon, les forteresses ou les choses comme ça sont utiles ou inutiles, vous rappelez que ça se termine par, au fond, considerato adunque tutte queste cose, dont il apparaît le chapitre 20, io Lauderò chi farà le fortezze e chi non le farà, e biasimerò qualunque, fidandosi delle fortezze, stimerà poco essere odiato dai popoli. No? C'est la question d'éviter la haine des peuples. Ouais. Donc, bloque avec ça. Et puis, le 21, qui est directement lié à cette idée d'éviter le mépris et la haine, puisque il donne toute une série d'éléments qui permettent justement d'être considérés comme éminents, egregios, hein, les façons dont il faut agir pour être stimato. Voilà. Bloc comme ça. Alors, on pourrait dire que les chapitres 22 et 23 qui suivent, donc ce bloc-là, hein, ce bloc... C'est bien que c'est le bloc qui a fait la réputation diabolique, hein, de Machiavel. Le bloc qui a fait dire ce texte est écrit du doigt du diable. Hein, et que, c'est là-dessus que tous les innocents et tous les gentillets, hein, pendant des siècles, ont concentré leurs attaques. Hein. Alors ensuite, deux chapitres, 22 et 23, sur les ministres, les secrétaires, hein, de ceux qui sont au service des princes pour les affaires secrètes, les ministres, et les conseillers, hein, le chapitre sur le fait de la nécessité pour un prince de se méfier des adulateurs, qui est, hein, un chapitre sur la nécessité du conseil, hein, du conseil sur la façon de faire de la façon de faire du prince vis-à-vis de la nécessité du conseil. On peut dire que là, d'une certaine façon, là, c'est les deux plus nettement curriculum vitae du prince, hein, ceux qui sont sur la question du conseiller du prince, hein, ceux qui ont les secrets du prince. Donc, on peut dire que là, il lève le doigt en disant, vous savez, moi, je ferais ça pas mal, quoi. Et puis, donc, une question donc, voilà, qui est traitée dans 24-25. Question qui est traitée dans 24-25 et qui est donc... la question, c'est pourquoi est-ce que les princes d'Italie ont perdu leurs états? Et c'est l'occasion, qui est posée dans le chapitre 24, et c'est l'occasion de traiter la question de... fortuna, hein, du rôle de la fortuna dans les choses humaines, et de la façon dont on doit, quand on est un prince nouveau, et en particulier un prince nouveau, se poser la question de son rapport à l'occasion, à ce qu'il y a à faire en fonction des occasions offertes par la fortuna, etc. Alors, notez bien, parce que c'est un point important, que le résultat du parcours qu'on a effectué, hein, entre le tout début du texte et le chapitre 24, hein, il s'énonce assez aisément. C'est-à-dire que dans le chapitre 2, qui était le seul chapitre, bon, parce que il était les principaux héréditaires, et puis tout le reste, c'était les nouveaux, avec les subdivisions des nouveaux, les différentes façons de les acquérir, de les maintenir, le rapport... avec les armes, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'il définissait les principats héréditaires dans le chapitre 2? Eh bien, il disait, en gros, c'est facile, quoi. Facile, il suffit de l'avoir. Et de pas faire trop d'erreurs. Hein, et de pas faire trop d'erreurs. Et à ce moment-là, franchement, il n'y a qu'à regarder ce qui est arrivé au duc de Ferrare. Il n'était pas spécialement malin, il n'était pas spécialement fort militairement, etc. Mais il est arrivé à surmonter des difficultés énormes qui étaient les guerres avec les Vénitiens, les guerres avec le pape Jules II, et il est toujours là, quoi. Voilà. Hein. Dico adunque che negli stati ereditari assuefatti al sangue del loro principe sono assai minore difficoltà a mantenerli che nei nuovi, perché basta solo non preterire gli ordini dei suoi antenati e di poi temporeggiare con gli accidenti. No? In modo che se tale principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato, se non è una straordinaria eccessiva forza che ne lo privi. E privato che ne fia, quantunque di sinistro abbia l'occupatore, lo riacquista. Donc là, vraiment, la question évidemment de l'acquisition ne se pose pas parce qu'il est héréditaire, donc on l'a parce qu'il est héréditaire. Hein. Et la question du maintien suffit de pas être une crêpe, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment ordinaria industria. Là, c'est vraiment, il faudrait vraiment que. Hein, il en rajoute des tonnes pour perdre ce qu'il a. Et même s'il le perd, il suffit que ce qui arrive tout le temps, que celui qui a acquis son état, qui s'en est emparé, fasse la moindre erreur, hop, il l'acquiert de nouveau, il en redevient le. Ouais. Donc, s'il est d'ordinaria industria, s'il n'a pas des vices extraordinaires, parce que là, ça risque de le faire haïr, et donc à ce moment-là, eh bien, il va se maintenir. Une fois qu'il a posé ça dans le chapitre 2, il aborde la question des principati nuovi. Quand on arrive au chapitre 24, hein, il fait en quelque sorte le bilan de ce qui vient, du parcours qu'il vient d'effectuer, et il dit. C'est le premier paragraphe du chapitre 24. Les cose soprascritte, osservate prudentemente, fanno parere antico uno principe nuovo e lo rendono subito più sicuro e più fermo nello stato che se vi fossi antiquato dentro. Donc, non seulement hein, on est comme dans un principat héréditaire, mais c'est encore plus sicuro et plus fermo, sa situation, hein, à condition donc qu'il ait réussi à comprendre quelles sont les qualités qu'il doit avoir, quelles sont les armes qu'il doit avoir, hein, et à partir du moment où il a compris ça et où il l'applique, il paraît antico, ce prince nouveau, il est comme un prince héréditaire, et il est même aussitôt plus sicuro et plus fermo nello stato che se vi fossi antiquato dentro. Bon, non. En gros, hein, on vient de parcourir donc les différentes modalités de fonctionnement, de défense, d'usage qu'il faut avoir avec les sujets, etc. Si on a fait ça, eh bien, on a obtenu quelque chose qui va pouvoir exister aussi simplement qu'existent les stati héréditaires. Alors, là, il sent qu'il doit répondre à une objection, mais t'es bien gentil, Machiavel, de nous dire ça, mais. Malgré tout, roi de Naples, duc de Milan, etc., ils ont quand même un peu perdu leur stade, il est dans la période qu'on vient de connaître. Oui, mais à ce moment-là, donc, commence hein, son analyse sur fortuna et virtù. Hein, fortuna et virtù. Donc, je vous rappelle les grands points, mais très très brièvement. Un, ceux qui ont perdu leurs états. Non accusino la fortuna malaigna via loro. Ils ont commis des erreurs, des péchés, hein, si on utilise le terme du chapitre 12. Voilà. D'ailleurs, en général, on peut dire que vis-à-vis de la fortune, on ne doit pas accuser la fortune si avant, dans les moments de bonasse, dit-il, hein, nella bonaccia, les moments de calme, avant la tempête, avant l'inondation, on n'a pas construit les choses qui, justement, permettront d'éviter d'être emporté par la fortune, avec cette première métaphore de la fortune comme un fiume rovinoso, hein, un fleuve qui emporte tout sur son passage, lorsqu'il est en crue, eh bien, un fleuve furieux. Hein. Si on n'a pas fait ça, qu'on n'aille pas accuser la fortune. Si on a construit les remparts et les digues, hein, argini e ripari, déjà on verrait que la fortune n'est pas si puissante, hein, n'est pas si puissante. Et d'ailleurs, si on considère l'Italie, on voit bien que s'il y a toutes ces variations, eh bien, on constate qu'il s'agit d'una campagne senza argini e senza alcuno riparo. E se la fusse riparata da conveniente virtù, come la Magna, la Spagna e la Francia, o questa piena non avrebbe fatto le variazioni grandi che la ha, o ella non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti avere detto quanto all'opporsi alla fortuna in universali. Donc, premier point acquis, donc dans ce bloc 24-25. Deuxième point, la question du riscontro del modo di procedere et des tempi, de la qualité des tempi, qui est développée. Qui est développé ensuite, hein, avec là cette idée que les hommes, hein, les grands hommes, ceux qui considèrent, hein, ont une façon d'agir, un modo de procedere, hein, qui est lié à une espèce de quelque chose qu'on pourrait nommer un trait de caractère, enfin, hein, vous savez, les deux grands traits de caractère qui l'envisagent étant. Le respectivo, hein, le circonspect, le prudent, mais prudent pas dans le sens d'avisé, pas dans le sens de sage, dans le sens de, qui est trop prudent, hein, qui est circonspect face aux choses, qui avance grado per grado, hein, et de l'autre côté, l'impetuoso. Alors, explique que c'est pas tout le temps. Ça dépend de la situation. Il y a des cas, vous savez que c'est un point sur lequel il a réfléchi depuis au moins une dizaine d'années. On trouve des éléments comme ça dans ses lettres, dans ses lettres d'ambassade ou dans ses lettres privées, en particulier dans cette lettre au neveu du gonfalonier. Hein, Giovanni Battista Soderini, écrite en 1506, et il a déjà réfléchi là-dessus. Comment se fait-il que deux personnes qui agissent de la même façon peuvent avoir des résultats différents, ou au contraire, deux personnes qui agissent de façon complètement opposée ont des bons résultats alors qu'ils agissent de façon opposée? Il se pose cette question-là, cette question qui va se reposer dans les discours. Voilà. Alors, là, ce qu'il dit, c'est voilà, heureux ceux dont il modo de procedere riscontra la qualità dei tempi. No. Credo ancora che sia felice quello che riscontra il modo di procedere suo con la qualità dei tempi, e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano i tempi. Voilà. Alors, évidemment, il énonce l'hypothèse que si on savait changer de mode de procédure en fonction de la qualité des temps, alors on pourrait être heureux, hein, on pourrait être heureux toujours et avoir de bons résultats toujours. Mais dit-il, non si trova uomo si prudente che si sappia accomodare a questo. Ça se trouve pas. Dans les textes des discours, il expliquera que cette capacité à changer le modo del procedere est plus aisée sur les pour les républiques qui peuvent changer les gens qu'elles mettent à leur tête que pour un principal, parce qu'un principal, ben, c'est celui qui est le prince qui a le modo del procedere. Hein, on voit qu'il ne change pas, c'est une constatation d'expérience. Et vous savez que l'exemple qu'il donne là, hein, c'est un exemple qu'il donnait déjà dans cette lettre de 1506, Ghiribizzi e Soderini, c'est l'exemple du pape Jules II, hein, qui lui procédait in ogni sua azione impetuosamente, e trovò tanto i tempi e le cose conformi a quello suo modo di procedere che sempre sorti felice fine. Hein? La brevità della vita, termine donc le passage sur Giulio II, e la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il contrario, perché se fossino sopravvenuti i tempi che fossi bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina, né mai avrebbe deviato da quei modi ai quali la natura lo inclinava. Allora, reste quelque chose qui a à voir avec un sentiment personnel, un choix personnel, hein, et qui s'exprime, qui est tout à fait, dont rien ne dit que ça doit être la conclusion du chapitre. Rien dans les développements qu'il a mis en place dans le chapitre 24, le début du 25, sur résister à la fortune en général et la question du riscontro del modo de procedere et la qualité des temps, il ne dit il vaut mieux être ci que ça. Ça dit uniquement en fonction des temps, il vaut mieux être ci ou ça. Si les temps requièrent qu'on soit Fabius Cunctator, eh ben faut être Cunctator, faut être un temporisateur. Si les temps requièrent qu'on soit un impetuoso, eh bien faut être impetuoso. Ouais. Et donc il y a quelque chose qui tient voilà, du pari, enfin, pari, ou de l'acte de foi, etc., et qui est lié à une métaphore sexualisée, hein. La fortune est une femme, et les femmes, elles aiment bien les hommes impétueux. Ouais. Bon. Déclaration qu'on peut parfaitement entendre, mais qui évidemment n'est pas fondée par une analyse antérieure. Enfin, hein. La fortuna, come donna, è amica dei giovani perché sono meno rispettivi, più feroci e con più audacia la comandano. Allora, il arrive à ce moment-là l'exhortation finale, hein, c'est un moment. Moment comme ça de lyrisme, enfin, dont je vous ai dit au début que on pouvait se demander si elle avait été écrite un peu plus tard, tu vois, le reste du texte, et vraiment pour Laurent, pour le jeune Laurent, hein, pour le jeune Laurent. Duc d'Urbain, enfin, c'est pas impossible. Ce qui est certain, c'est que, même s'il a écrit, mettons, 3 ans, 4 ans, au maximum 5 ans, ça peut pas être après 1518, hein, l'autre il meurt en 1519, ouais, donc ça, au moins on a un terminus. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de l'écrire, il avait relu le reste du passage, le reste du texte, parce que les thématiques hein, sont extrêmement, extrêmement reprises. Donc, je vous ai déjà mis en place le lien entre la rédemption et la question des péchés des princes. Il y a toute une série d'autres éléments. Par exemple, il reprend, c'est intéressant, qu'ils reprennent les trois des quatre grands hommes créateurs hein, qui acquièrent des états par leurs vertus et par leurs armes, hein, que sont Moïse, Cyrus et Thésée. Donc, référence à trois des quatre grands personnages, ces grands exemples du chapitre 6. Et c'est pas non plus du tout un hasard qui en manque le quatrième, qui est Romulus, et donc l'exemple du modèle romain. Hein. Et c'est pas parce qu'il a oublié qu'il y avait Romulus, c'est parce que le Romulus nouveau, c'est celui qui là, maintenant, saura être le rédempteur de l'Italie. Et racheter les péchés des autres princes. Hein. Voilà. Donc, y compris dans les tonalités, hein, on a vu l'Italia schiava e vituperata du chapitre 12, hein, on est totalement dans cette thématique, hein, quand on lit au chapitre 3, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano, era necessario che l'Italia si riducesse nei termini presenti, che ella fosse più schiava che gli ebrei, più serva che persi, più dispersa che gli ateniesi, senza capo, senza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, e avessi sopportato d'ogni sorte ruina. Hein? E donc, rappelez-vous les termes, hein, le terme de la vertu des condottières hein, italiens, qui était précisément que l'Italie est stata corsa da Carlo, predata da Luigi, hein, sforzata da Ferrando, vituperata da Svizzeri. Hein, eh bien, la tonalité est reprise. Et alors, là, se met en place une réponse, là, pour le coup, positive, et pas seulement dans la destruction de ce que devaient être les armes, de ce que ne devaient pas être les armes d'un prince nouveau, hein, comme on avait dans 12 et 13. 12 et 13, c'est, il faut pas les armes mercenaires, il faut pas des armes qui viennent de tes alliés, etc. Il faut les armes propres, et là, il y a une explicitation de ce qu'il entend par les armes propres qu'il faut mettre en place, et certains des points qui sont énoncés dans ce chapitre 26 seront repris et détaillés dans l'art de la guerre, hein, quelques années plus tard, eh bien, c'est, dit-il, l'ordine terzo della fanteria, ce qui compte. La force principale d'une armée, c'est son infanterie. Les deux infanteries principales de notre époque sont les Suisses et les Espagnols. Les Suisses sont très forts pour combattre une cavalerie, mais ils ont un défaut, c'est que s'ils sont opposés à une infanterie, ils peuvent perdre. Hein, Et les Espagnols sont capables de... d'après Machiavel, même s'il dit on n'en a pas vu l'exemple complet, parce que l'exemple qu'on a eu, c'est à Ravenne, et à Ravenne, les Espagnols étaient opposés à des Allemands, à des lansquenets allemands, et pas à des Suisses. Mais, dit-il, ces Allemands combattent comme les Suisses, et donc ce qu'on a vu à Ravenne, c'est la preuve qu'une infanterie espagnole peut vaincre une infanterie suisse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut possiadunque c'est le 25, paragraphe 25 du chapitre 26, « Quo sia dunque conosciuto il difetto dell'una e dell'altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale resista ai cavalli e non abbia paura dei fanti, il che lo farà la generazione delle armi e la variazione degli ordini, e queste sono di quelle cose che, di nuovo ordinate, danno reputazione e grandezza a uno principe nuovo. » Et ce point-là est précisément ces termes qu'il emploie, le genre des armes, la génération des armes, la variation des ordres, la variation des ordres, ce sont des points qui seront développés précisément dans l'art de la guerre. Hein? Voilà. Vous savez que ça se termine par l'espèce de longue interrogation rhétorique, hein, cette interrogation rhétorique. Non si debba lasciar passare questa occasione a ciò che l'Italia vega dopo tanto tempo apparire uno suo redentore, no? Ne posso esprimere con quale amore egli fosse ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per quelle illuvioni esterne, no? Avec reprise de l'image de l'inondation du chapitre 25. Con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime, quali porte se li serrerebbero, quali popoli gli negherebbero la obbedienza, quale invidia se li opporrebbe, quale italiano gli negherebbe l'ossequio, ad ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli adunque la illustre casa vostra questo assunto, con quello animo, con quella speranza che si pigliano le imprese giuste, a ciò che è sotto la sua insegna, e questa patria ne sia nobilitata, e sotto i suoi auspizi si verifica quel detto del Petrarca quando disse, citation de Italia mia, benché il parlar sia in darno, virtù contro a furore prenderà l'armi e fia il combatter corto, che l'antico valore negli italici cor non è ancora morto. Donc, tonalité, come si è, mobilisation d'émotion. Hein, avec la langue de la grande poésie, avec les références bibliques. Hein, rappelez, jamais eu une situation aussi importante, à la fois aussi mauvaise et aussi bonne. Hein, on a vu des choses extraordinaires. Si vengono straordinari senza esempio, condotti da Dio. Hein, il mare si è aperto, una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha versato acque, qui è piovuto la manna, ogni cosa è concorsa nella vostra grandezza, e il rimanente dovete fare voi. Dio non vuole fare ogni cosa per non ci torre il libero arbitrio. Référence, è aussi très précise au début du chapitre 25, hein? È parte di quella gloria che tocca a noi. Donc, une tonalité nouvelle, peut-être liée à la personnalité de Laurent, mais en tout cas, complètement lié d'un point de vue thématique à l'ensemble du texte. Hein, mais avec un ton qui change, et qui donne, hein, qui termine, hein, qui donne un point final, dans cet envolé lyrique, qui donne un point final à un des points qui reste un des points décisifs des enjeux de l'écriture, du pourquoi de l'écriture du prince, cet appel, hein, à la mise en place des armes propres liées à la qualité des temps ouverts par l'arrivée des Français en 1494. On s'arrête là pour aujourd'hui.